Bien, alors bonsoir. Alors ce soir, on va parler du salon. Et le salon, au XIXe siècle, c'est l'institution artistique par excellence. C'est l'étape incontournable pour tout bon artiste qui se respecte. Le salon, c'est un endroit où il faut être vu et où il faut voir, évidemment. Le salon, c'est aussi une véritable chape de plomb pour tous les artistes qui dérogent à la règle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tous les artistes qui ont été momentanément exclus du salon. Avant de commencer ce cours, je voulais vous citer un passage d'un livre écrit par les frères Goncourt au XIXe siècle, c'est Manette Salomon. Alors les frères Goncourt étaient très au fait de la vie parisienne, et en fait, dans ce livre-là, ils font toute une description du salon qui est assez éloquente. Donc je les cite. Un grand jour que le jour d'ouverture d'un salon. 3000 peintres, sculpteurs, graveurs, architectes l'ont attendu sans dormir dans l'anxiété de savoir où l'on a placé leurs œuvres et l'impatience d'écouter ce que ce public de première représentation va en dire. Médailles, décorations, succès, commandes, achats du gouvernement, gloire bruyante du feuilleton, leur avenir, tout est là, derrière ces portes encore fermées de l'exposition. Et les portes à peine ouvertes, ils se précipitent. C'est une foule, une mêlée. Ce sont des artistes en bande, en famille, en tribu. Des artistes gradés, donnant le bras à des épouses qui ont des cheveux en coque, des artistes avec des maîtresses à mitaine noire, des chevelus arriérés, des élèves de nature coiffés d'un feutre pointu, puis des hommes du monde qui veulent se tenir au courant, des femmes de la société frottées à des connaissances artistiques et qui ont un peu dans leur vie effleuré le pastel ou l'aquarelle, des bourgeois venant se voir dans leurs portraits et recueillir ce que les passants jettent à leur figure. De vieux messieurs qui regardent les nudités avec une lorgnette de spectacle en ivoire. Des vieilles faiseuses de copies à la robe tragique. Le pince néoné a passé la revue des torses d'hommes qu'elle critique avec des mots d'anatomie. Du monde de tous les mondes. Des mères d'artistes, attendries devant le tableau filial avec des larmoiements de portières. Des actrices fringantes, curieuses de voir des marquises en peinture. Des refusés hérissés, allumés, sabrant tout ce qu'ils voient avec le verbe bref et des jugements féroces, des frères de la doctrine chrétienne, venus pour admirer les paysages d'un gamin auquel ils ont appris à lire, et ça et là, au milieu de tous, coupant le flot, la marche familière et l'air d'être chez elles, des modèles, allant au tableau, aux statues, où elles retrouvent leur corps, et disant tout haut, « Tiens, me voilà !» à l'oreille d'un ami pour que tout le monde entende. On ne voit que des nez en l'air, des gens qui regardent avec toutes les façons ordinaires et extraordinaires de regarder l'art, spectacle varié, brouillé, sur lequel planent les passions, les émotions, les espérances volantes, tourbillonnantes, tout le long de ces murs qui portent le travail, l'effort et la fortune d'une année. Donc j'ai choisi ce passage un peu long parce que c'est vraiment emblématique des enjeux du salon, des enjeux artistiques mais aussi des enjeux économiques et sociaux. Que sont ces expositions. Alors un peu d'histoire, en fait l'ancêtre des salons, ce sont les expositions de peinture qui se tiennent depuis le XVIIe siècle à Paris, qui sont des expositions officielles, plus ou moins régulières, de peinture, de sculpture, de gravure. Au XVIIIe siècle, on a un changement avec la Révolution française, ces expositions prennent le nom de salon. Et la Révolution française en transforme l'esprit en en faisant une exposition publique, qui n'est plus l'apanage des membres d'une corporation, d'une association, mais au contraire, qui est ouverte à tous. Ça, c'est un changement important. Au XIXe siècle, le salon est aux mains de l'Académie des Beaux-Arts, donc l'institution par excellence, et donc c'est un lieu de passage obligé, redouté, puisque la critique et le public peuvent faire ou défaire la carrière d'un artiste. À partir de là, dans la mesure où il présente et où il promeut l'artiste, le salon, c'est un formidable sésame. C'est cette visibilité, finalement, qui lui garantit, à terme, la reconnaissance. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait un aspect financier, économique, et il est clair que c'est un aspect qu'il ne faut pas sous-estimer. On a l'exemple de Monet, donc un des grands peintres impressionnistes. Monet a une carrière en dents de scie. Il a parfois eu des échecs retentissants au salon, et notamment en 1864, il est exclu du salon et il se confie à Arsène Houssaye. Arsène Houssaye, c'était le directeur d'une revue très importante à l'époque qui s'appelait L'Artiste, Et voici ce qu'il lui dit. « Je suis dans de très bonnes conditions et plein de courage pour travailler, mais hélas, ce fatal refus me retire presque le pain de la bouche. Et malgré mes prix bien peu élevés, marchands et amateurs me tournent le dos. Cela surtout est attristant de voir le peu d'intérêt qu'on porte à un objet d'art qui n'a pas de côte. » Donc on voit mine de rien, le salon, ça offre cette visibilité-là et ça offre toute une clientèle potentielle. Que ce soit des commandes officielles, des commandes qui émanent de l'État ou des commandes privées de riches bourgeois de l'époque. Alors, le salon en images. En fait, j'ai choisi deux images. Bon, ça, c'est le pendant sérieux du salon. C'est un tableau qui est présenté au musée d'Orsay. Une séance de jury de peinture au Salon des artistes français. Et donc, on voit justement les critiques en train de tergiverser sur le choix de telle ou telle œuvre. Donc ça, c'est le pendant sérieux. Et le pendant moins sérieux, c'est cette œuvre de François-Auguste Biard, 4 heures au Salon. Et en fait, cette toile, elle est assez rigolote parce que... Donc on voit les gardes qui sont en redingote rouge en train de siffler la fermeture du salon, donc en train de haranguer la foule. Et on voit justement les réactions de la foule au salon. On voit des gens qui sont morts d'ennui, des gens qui sont choqués, d'autres qui sont effrayés, d'autres qui s'esclaffent devant telle ou telle œuvre. Et ça montre bien toute la faune qu'il y avait dans ces salons. Parce qu'il y avait effectivement des amateurs d'art, ça c'est certain, mais il y avait aussi des gens... qui venaient là, donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour voir et être vus. Il y a un aspect très mondain dans ces salons. Et il est de bon ton, quand une œuvre fait la une, que ce soit une œuvre très, très admirée ou au contraire une œuvre très critiquée, il est de bon ton de se retrouver et d'aller de son petit commentaire pour évoquer ses œuvres. Alors, le jury se veut le garant du beau. C'est un art donc résolument léché, résolument traditionnel, qu'il désire, et toute œuvre qui vient contrecarrer ce plan de route est évincée, censurée. Alors à cette époque, quand je dis art léché et art académique, je pense à des artistes comme William Bouguereau. Bon, là c'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, c'est la naissance de Vénus, et voilà ce à quoi on aspire. Un art qui s'éloigne du réel, qui est jugé vicié, néfaste, un art qui permette de... recréer en quelque sorte la mythologie ou des grands épisodes historiques. On veut quelque chose qui s'échappe du réel et on veut quelque chose d'extrêmement léché. Donc pas de détails sordides, pas d'anecdotes truculentes, c'est quelque chose de très académique. Alexandre Cabanel. J'en ai parlé la semaine dernière, alors c'est le même thème, hein, c'est la naissance de Vénus. C'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, il a été peint en 1863. Et si je parle d'Alexandre Cabanel, c'est que c'est un artiste académique, hein, il a une carrière extrêmement classique, une carrière idéale en fait. Hein. Il se forme à Paris, il est reçu à l'école des Beaux-Arts, les récompenses se succèdent, il reçoit le Grand Prix de Rome, il est membre de l'Institut, il enseigne à l'école des Beaux-Arts, donc l'institution artistique par excellence, et toutes les critiques l'adulent. Et pourtant... Eh bien, à certains moments de sa carrière, il y a certaines critiques qui ont été extrêmement revêches et qui ont pu, à un certain moment, remettre en question sa carrière. Je cite le critique Paul Mans, qui écrit à propos du Salon 1869, une critique assez désagréable. Cabanel avait présenté deux portraits et Paul Mans les trouve affreux. Et voici ce qu'il écrit. « Monsieur Cabanel cesse de faire de la peinture, il entre dans le domaine de la sucrerie. Nous sommes persuadés qu'il avait sous les yeux de charmants modèles, mais le désir d'être aimable et de sacrifier aux grâces l'a conduit à supprimer tous les traits particuliers, toutes ces marques individuelles qui sont le signe de la vie. Ces portraits, fondus et blérotés jusqu'à l'effacement, ressemblent à ces photos retouchées par des manœuvres. » Donc en fait, même des artistes indéboulonnables comme Alexandre Cabanel peuvent voir leur carrière remise en cause ponctuellement par une critique désagréable. Alors, ça, c'est l'exemple d'un homme qui est adulé par la critique. Donc, je vous laisse imaginer les artistes qui, par contre, étaient les bêtes noires de ces critiques. Généralement, on s'est acharné à plaisir sur ces artistes-là pour les dénigrer et pour freiner leur carrière. Alors, je vais un peu trop vite en besogne. Je le répète, chaque œuvre présentée au salon fait l'objet d'un examen minutieux de la part d'un jury qui décrète si, oui ou non, cette œuvre sera exposée. Et donc, je l'ai dit, tout ce qui contrevient à l'académisme va être purement et simplement refusé. On aspire donc à un monde léché, un monde idéal, et en fait il y a deux séries d'artistes qui vont être évincées à cette époque. Deux séries d'artistes qui appartiennent à deux mouvements pourtant très importants aujourd'hui, le réalisme et l'impressionnisme. Ces deux mouvements-là étaient inédits, apportaient quelque chose de très novateur, qui a été jugé subversif, et donc toutes les critiques se sont échinées à écarter ces artistes-là. Et c'est le paradoxe, parce qu'aujourd'hui, ces artistes réalistes, ces artistes impressionnistes, on les connaît au moins de nom. Alors que par contre, si je vous demande qui est William Bouguereau ou Alexandre Cabanel, de prime abord, ça ne vous évoquera pas forcément quelque chose. Donc voilà, l'histoire a fait son choix, et mine de rien, ce sont ces artistes qui étaient honnis et tant critiqués qu'on a retenus aujourd'hui. Alors le réalisme, c'est un mouvement qui est jugé subversif. En fait, ce qui choque, je l'ai évoqué en quelques mots la semaine dernière, c'est l'intrusion du vil, l'intrusion du réel, parce que, quelque part, cette intrusion-là rompt avec la tradition d'un monde léché, d'un monde idéalisé. Et ce monde léché, ce monde idéalisé, ce monde de Bouguereau, de Cabanel, eh bien, pour les critiques de l'époque, c'est le seul monde apte à susciter l'émotion, à éveiller l'imagination. Alors évidemment, c'est faux, mais à cette époque, on est chevillé à ce type d'argument. Gustave Courbet, c'est un peintre qui naît en 1819, il meurt en 1877, et en 1855, à Paris, se déroule l'exposition universelle. Courbet présente des œuvres qui sont refusées, il ne se décourage pas et il décide de monter une contre-exposition dédiée à son art, le réalisme. Alors Courbet, rappelons-le, c'est un artiste qui va être régulièrement refusé. Déjà en 1850, un enterrement à Ornans avait été accepté et avait provoqué un scandale tonitruant. Alors, je l'avais évoqué la semaine dernière, ce qui avait choqué notamment la critique de l'époque, c'était ce format immense, un format traditionnellement réservé à la peinture d'histoire et qui là était réservé à un banal fait divers, un enterrement à Ornans. Et la critique aussi avait été extrêmement choquée par l'aspect sobre, banal, prosaïque de cet enterrement et de ces gens amassés là autour de la fosse. Donc c'est une œuvre qui avait été conspuée. Donc je reviens en 55, donc Courbet monte sa contre-exposition. Et Courbet est un artiste assez cavalier, assez audacieux, et on pourrait croire qu'il est anéanti par ses critiques récurrentes. Pas du tout, au contraire, ça le conforte dans son sentiment qu'il a quelque chose à apporter, quelque chose d'inédit. Je ne dirais pas qu'il est prétentieux, mais du moins il a conscience de son art et de son apport. Et donc, à l'occasion de cette contre-exposition, en 1855, il rédige un texte à l'intention des visiteurs. Donc j'en cite un extrait. Le titre de réaliste m'a été imposé comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de romantique. Les titres en aucun temps n'ont donné une idée juste des choses. S'il en était autrement, les œuvres seraient superflues. Sans m'expliquer sur la justesse plus ou moins grande d'une qualification que nul, il faut l'espérer, n'est tenu de bien comprendre, je me bornerai à quelques mots de développement pour couper court au malentendu. J'ai étudié, en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l'art des anciens et des modernes. Je n'ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres. Ma pensée n'a pas été davantage d'arriver au but oiseux de l'art pour l'art. Non. J'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité. Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation, être non seulement un peintre, mais comme un homme, en un mot, faire de l'art vivant, tel était mon but. Alors, cette contre-exposition est un pavé dans la mare. Elle remet en cause la toute-puissance de l'institution. Alors, c'était vraiment le choc, C'est un artiste qui dit, bon, allez, c'est bon, le jury ne veut pas de moi, très bien, je monte ma propre exposition. Il fallait un sacré courage et un sacré culot pour assumer tout ça, parce que ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur sa carrière. Au contraire, ça a été un formidable coup de pouce, mais le pari était quand même assez osé. Et donc cette exposition fait le tour de Paris, tout le monde se presse au pavillon du réalisme pour voir les œuvres de Courbet, Et Duranty, qui est critique d'art, qui est romancier, mais qui est aussi un des grands protagonistes du réalisme, écrit à George Sand, donc écrivain du XIXe siècle, pour lui raconter en quelques mots cette contre-exposition. Et Duranty écrit ceci. « Alors qu'il est, madame, on voit à deux pas de l'exposition de peinture de l'avenue Montaigne, un écriteau portant toutes lettres du réalisme, Gustave Courbet, exposition de 40 tableaux de son œuvre. C'est une exhibition à la manière anglaise. Un peintre dont le nom a fait explosion depuis la révolution de février a choisi, dans son œuvre, les toiles les plus significatives et il a fait bâtir un atelier. C'est une audace incroyable, c'est le renversement de toute institution par la voix du jury, c'est l'appel direct au public, c'est la liberté, disent les uns. C'est un scandale, c'est l'anarchie, c'est l'art traîné dans la boue, ce sont les tréteaux de la foire, disent les autres. Courbet est un factieux pour avoir représenté de bonne foi des bourgeois, des paysans, des femmes de village, de grandeur naturelle. Ça a été là le premier point. On ne veut pas admettre qu'un casseur de pierre vaut un prince. La noblesse se gendarme de ce qu'il est accordé tant de mètres de toile à des gens du peuple. Seuls les souverains ont le droit d'être peints en pied, avec leurs décorations, leurs broderies et leur physionomie officielle. Comment ? Un homme dormant, un paysan enfermé dans son cercueil, se permet de rassembler à son enterrement une foule considérable ? Des fermiers ? Des gens de bas étage ? Alors, c'est un texte un peu osé, mais ça montre bien à quel point, bon, alors Duranty adore Courbet évidemment, mais ça montre à quel point son art était scandaleux, parce que Courbet, le premier, hissait des personnages simples, le peuple en fait, au rang de héros de peinture. Et ça a été un choc pour la critique de l'époque. Bon, il ne faut pas oublier que l'histoire de France au XIXe siècle, c'est une histoire assez houleuse, assez mouvementée. En 1848, il y a la Révolution qui renverse le gouvernement en place. Donc c'est vrai que c'est toute cette volonté, ce choix artistique, social, de prendre des gens du peuple, et bien mine de rien, c'est vu comme quelque chose de dangereux, de subversif, parce que c'est vu comme quelque chose de susceptible de troubler l'ordre public. Et donc les critiques, qui sont les garants de l'ordre établi, voient ça d'un très mauvais œil. Et effectivement, Courbet va être très fréquemment, tout au long de sa carrière, conspué à la fois sur le plan artistique, mais sur le plan politique. Cette critique politique, elle est sous-jacente et elle est très pernicieuse, parce que Courbet, mine de rien, est présenté comme un homme marginal, dangereux. Bon, là, je vous cite des critiques qui sont parfois difficiles, mais il y a eu aussi des critiques beaucoup plus odieuses, qui s'attaquaient à l'homme et qui en faisaient une sorte de paria. Donc voilà. Par rapport au réalisme, je le disais tout à l'heure, il y a cette volonté d'évoquer la réalité, d'évoquer les sujets du quotidien. Une réalité sans idéalisation, mais il ne faut pas faire l'amalgame. Réalisme, ça ne veut pas dire mimétisme. Il faut bien avoir à l'esprit que tous ces artistes réalistes, effectivement, prennent des sujets dans le réel, mais les transfigurent. Il y a une part de création, et chaque artiste donne sa propre vision, une vision spécifique de la réalité qu'il voit. Alors, autre tableau de Courbet, c'est l'atelier du peintre. Je l'avais évoqué également la semaine dernière, c'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, qui a été peint de 1854 à 1855. Et là aussi, ça avait été un scandale épouvantable, dans la mesure où, là encore, il prenait un format immense pour un tableau qui n'était pas de la peinture d'histoire. Et là aussi, tout à l'heure, je disais que Courbet était quelqu'un d'audacieux et assez conscient de son apport. Bon, là, c'est tout à fait symptomatique, parce que l'atelier du peintre, c'est l'atelier de Courbet. Et Courbet voulait faire de cette œuvre vraiment un exposé de principe de son art en se présentant en train de peindre avec à la fois les gens de la bourgeoisie, mais à la fois aussi les gens du peuple. Donc c'était vraiment une toile emblématique de ses idées et de ses théories. Alors l'autre artiste réaliste que j'avais aussi évoqué la semaine dernière, c'est Jean-François Millet. Jean-François Millet, il est né en 1814, il meurt en 1875, il se forme à Paris dans l'atelier de Paul Delaroche, qui est un artiste très traditionnaliste, qui se spécialise dans les scènes de peinture d'histoire, justement. Et Millet va rapidement s'éloigner de ce courant très traditionnaliste, et notamment, il va s'en éloigner au contact de l'école de Barbizon. Alors, l'école de Barbizon, en fait, C'est pas vraiment une école, hein. Cette dénomination, elle est très artificielle. Ça remonte aux années 1830, où un peintre de cette époque, qui s'appelle Théodore Rousseau, est lui aussi refusé au salon. Et en fait, Théodore Rousseau décide de quitter Paris. Il en a assez de cette pression des salons. Et en fait, il s'installe dans la forêt de Fontainebleau et il s'adonne à la peinture de la nature. Il peint des arbres, il peint des animaux. Et petit à petit, en fait, il y a tout un cénacle qui se forme autour de Théodore Rousseau et on appelait ça l'école de Barbizon. Et l'école de Barbizon, en fait, ce sont des peintres dont la thématique, le sujet, c'est la nature. C'est un peu les précurseurs de l'impressionnisme dans le sens où ils quittent l'atelier, ils quittent ce lieu clos, fermé, pour peindre sur le vif les sujets qu'ils observent. Et c'est aussi des précurseurs des impressionnismes dans la mesure où ils s'intéressent à la nature et à l'évolution de cette nature, au gré des saisons, au gré des heures de la journée. Bref, ils ont un rapport tout à fait différent au monde qui les entoure. Donc, Jean-François Millet fréquente cette école de Barbizon et cette découverte de la nature influence grandement son œuvre. Je vous présente ici un tableau qui est conservé au musée d'Orsay et qui s'intitule « Un vanneur ». En fait, c'est une version, il y a eu plusieurs versions du vanneur et justement, la première version avait été exposée au Salon 1848 et avait suscité des critiques très très importantes parce que ce vanneur, cet homme du peuple, hein, ce paysan, était érigé au rang de héros. C'était lui, le héros de cette peinture. Et c'était quelque chose d'inconcevable à l'époque. Jean-François Millet, il va beaucoup, beaucoup s'intéresser donc à cette vie dans la campagne, dans la nature, et tous ces sujets évoquent les acteurs de cette campagne, donc des paysans, les travaux des champs. Et petit à petit, on va se mettre néanmoins à admirer ses œuvres parce qu'elles n'ont pas de message politique sous-jacent. Bon, effectivement, il prend des hommes du peuple, mais il n'a pas ce côté corrosif qu'avait Courbet. Là, c'est l'Angélus, c'est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Jean-François Millet. C'est un tableau assez petit, finalement, qui est peint entre 1857 et 1859, qui est conservé au musée d'Orsay. Et en fait, c'est un exemple emblématique de cette recréation du réel dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, Millet transfigure deux paysans et par leur stature, leur donne un caractère iconique. C'est une toile qui est assez petite, je le disais tout à l'heure, elle fait un peu plus de 60 cm de long, donc c'est vraiment pas un grand format, mais les paysans sont immenses. Et surtout, regardez l'arrière-plan, l'arrière-plan est très simple, et il y a cette ligne d'horizon, et justement cet arrière-plan très simple, très sobre, accentue la monumentalité des paysans. Bon, pour la petite histoire, donc, ces paysans étaient aux travaux des champs et donc ils ont interrompu leurs travaux pour réciter l'Angélus. Et donc c'est cet épisode-là que Millet cherche à retranscrire. Quelques années plus tard, il expliquera, je le cite, « L'Angélus est un tableau que j'ai fait en pensant comment, en travaillant autrefois dans les champs, ma grand-mère ne manquait pas, en entendant sonner la cloche, de nous faire arrêter notre besogne pour dire l'Angélus pour ces pauvres morts. » Donc il y a quelque chose de très simple et de très franc dans la démarche de Millet. Et là encore, c'est un artiste beaucoup moins engagé, entre guillemets, que Courbet. Courbet, quand il prend des formats monumentaux, bon, ça répond à une volonté propre, mais il y a aussi très clairement une volonté de choquer la critique et le public. Millet, il garde des formats qui sont tout à fait normaux, voire il travaille même sur des petits formats. Alors, l'autre œuvre que je voulais vous montrer, c'est Bergère avec son troupeau. Alors, c'est un tableau qui est conservé également au musée d'Orsay. C'est un tableau peint en 1863. Et c'est un tableau qui est accepté au salon 1864. Donc, on voit une bergère hein, devant son troupeau, occupée à tricoter. Et là encore, le vide du paysage accentue cette monumentalité. J'ai choisi de vous présenter aussi ce tableau-là parce qu'il y a cette lumière qui est vraiment caractéristique de Millet. Quand le musée d'Orsay a une collection assez importante hein, des œuvres de Millet. Et dans toutes ces œuvres, il y a cette même lumière, très douce, très feutrée. Et ça donne un côté à la fois intemporel, mais aussi très mélancolique. Que ce soit des peintures avec des personnages ou que ce soit simplement des paysages, il y a vraiment une espèce de tristesse qui émanent des tableaux de Millet. Mais c'est pas forcément, c'est pas forcément une tristesse triste. Il y a aussi quelque chose de gai, de paisible, de serein. Mais c'est vraiment, il y a un truc particulier qui se passe quand on observe une toile de Millet. Alors, autre artiste réaliste, alors lui aussi hein, beaucoup moins corrosif que Courbet, c'est Jules Breton. C'est le rappel des glaneuses, donc toujours hein, cette thématique du travaux des champs. C'est un tableau qui est peint en 1859, qui est conservé au musée d'Orsay. Et en fait, là, c'est la fin de la journée, donc on bat le rappel, et les glaneuses quittent les champs. Alors, c'est une vision très, très idyllique, hein, donc on est vraiment loin de cette vision sans concession de Courbet. On peut rapprocher cet artiste-là de Millet, par exemple. Et c'est une œuvre qui a connu un grand succès, de fait. D'ailleurs, elle avait été acquise par l'impératrice Eugénie. Donc voilà, le réalisme peut plaire tant que les sujets ne sont pas susceptibles de troubler l'ordre public et surtout de troubler, en quelque sorte, le bien fondé de la politique de Napoléon III. Alors, autre artiste, c'est Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, c'est une femme qui s'est spécialisée dans la peinture animalière. Elle est née en 1822, elle meurt en 1899, et en fait, Rosa Bonheur, c'est une autodidacte. Elle n'a reçu aucun enseignement. C'est son père qui, petit à petit, lui a donné quelques billes. Son père était professeur de dessin. Et elle est très prisée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et elle va donc représenter pratiquement exclusivement des animaux, et donc des scènes de campagne. Donc on voit, hein, les voies du réalisme, elles sont très différentes. On a un Courbet très politisé, politiquement incorrect, et on a aussi des artistes comme Jules Breton, comme Rosa Bonheur, qui donnent une vision beaucoup plus simple, beaucoup plus saine aussi, beaucoup plus édulcorée de la réalité. Et ça, évidemment, c'est une vision qui plaît. Donc c'est le tableau emblématique hein, de Rosa Bonheur, Labourage nivernais. C'est un tableau assez grand, tout en longueur. Et donc en fait, voilà, là elle présente comme héros de cette toile eh bien, deux attelages de bœufs dans la campagne. C'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay et qui est peint en 1849. Donc Napoléon III va créer en 1863, une contre-exposition, un salon off en quelque sorte, pour accueillir tous les artistes qui sont refusés et qui commencent à se révolter contre cette institution. Bon, Napoléon III, c'est pas un personnage très libertaire, hein, c'est pas un personnage forcément très sympathique, donc ça pourrait étonner qu'il crée cette exposition qui, mine de rien, permet plus de liberté, plus de latitude à ces artistes. Et en fait, bon, la volonté de Napoléon III, c'était de faire en sorte de donner une chance à ces artistes-là, et bon, c'était du politiquement correct. Et Napoléon III, donc, en 1863, va voir le directeur de l'école des Beaux-Arts, qui s'appelle Philippe de Chenevière, et donc lui explique son souhait de créer une contre-exposition. Alors, Philippe de Chenevière, au départ, est assez déstabilisé. D'abord parce que c'est très nouveau et c'est très étonnant, et puis surtout parce que ça vient de Napoléon III, qui est vraiment le chantre du traditionnalisme et qui n'est pas forcément très féru des œuvres d'un Courbet, par exemple. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Philippe de Chenevière a compilé cet épisode-là, et donc je le cite, donc il raconte cette rencontre impromptue, étonnante, avec Napoléon III. Donc je le cite. Un jour d'avril, pendant que nous étions dans les galeries des Champs-Élysées à préparer en hâte l'exposition des œuvres reçues, on vint me prévenir que l'empereur montait l'escalier du palais. Je m'avançai vers lui, il était seul, accompagné tout bonnement de deux officiers de sa maison, et me dit tout de suite qu'il désirait voir les ouvrages refusés par le jury. Je le conduisis dans la partie du palais où nous emplissions les tableaux refusés, et alors se passa la scène la plus étrange. J'avais appelé quelques gardiens pour remuer, soutenir les piles de tableaux, mais sans attendre que je fisse retourner les toiles les plus importantes, l'empereur, mettant sa canne sous son bras, se prit à feuilleter lui-même les cadres des plus petits tableaux, les appuyant contre son genou et s'arrêtant de temps en temps pour s'étonner de la sévérité du jury. Puis il me dit de prévenir de sa visite le surintendant, qu'il comptait revoir ce jour même, et auquel il annonça qu'il allait exprimer son désir d'une exposition des tableaux refusés, de manière à faire le public juge des réclamations des artistes. Donc c'est quelque chose de vraiment inédit. Donc en 1863, s'ouvre ce salon des refusés. Et alors ce terme refusé, c'est un terme assez ambigu. Et de fait, il y a certains artistes qui ne s'en vantent pas forcément. Bon, ils sont très contents d'exposer dans ce salon des refusés, mais choisissent de ne pas mentionner leur nom, par exemple. Ils n'arrivent pas à assumer cette contre-exposition. D'autres artistes, par contre, revendiquent clairement cette appartenance et sont bien trop heureux de montrer leurs œuvres au public et de faire un pied de nez, en quelque sorte, à l'institution officielle. Alors, parmi les artistes qui exposent à ce salon des refusés, il y a James Abbott Whistler. James Abbott Whistler, c'est un peintre d'origine américaine qui naît en 1834 et qui meurt en 1902. Et en fait, ce n'était pas du tout un homme destiné à l'art au début. Au départ, Whistler veut s'engager dans une carrière militaire. Il touche un peu à la cartographie. En fait, il se révèle assez rapidement beaucoup plus doué pour la cartographie que pour les armes et les stratégies en tout genre. Et donc, il se décide de devenir artiste. Mais donc, c'est un choix qui se fait un peu au hasard. Donc, Whistler part à Paris, se forme auprès des grands maîtres et va petit à petit présenter ses œuvres. Et Whistler va connaître des succès, mais aussi des échecs retentissants. Whistler, c'est un homme qui est très influencé par le réalisme, mais c'est un réalisme matiné d'effets de lumière, matiné d'effets de couleur. En fait, c'est un réalisme très onirique. Et c'est un artiste qui s'intéresse beaucoup, notamment, au jeu de lumière. Alors là, on le voit sur ce tableau. C'est un tableau qui est intitulé « Au piano », qui est conservé aux États-Unis. À Cincinnati, et quand on voit le visage de cette jeune fille là qui donc, suit cette leçon de piano, eh bien en fait on se rend compte que le visage est à peine ébauché, les traits ne sont pas distincts. Et ce qui intéressait Whistler en l'occurrence dans cette œuvre là, c'était de montrer que cette petite fille était noyée dans la lumière. Et quand on voit cette œuvre, bon, la qualité n'est pas très bonne, mais vraiment c'est une petite fille qui est très lumineuse. Cette robe, elle est blanche, elle est éclatante. Et il y a cette espèce de visage, marmoréen, quoi, très 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 livide, presque spectral. Et donc, ça vous montre bien cet intérêt pour la lumière. Alors, cette œuvre-là, elle est refusée au salon 1859. Donc, pourtant, ce n'est pas une œuvre politiquement incorrecte, hein, mais justement, on critiquait cet intérêt un peu trop poussé pour ces jeux de lumière et de couleurs. Donc, cette œuvre-là est refusée. Et puis, il y a une autre œuvre qui est refusée, qui est plus célèbre, c'est La fille blanche, qui est conservée aux États-Unis, à Washington. Et cette œuvre-là, justement, elle est présentée au Salon des refusés de 1863, et ça va être l'une des œuvres les plus commentées par la critique. Tout le monde s'est moqué allègrement de cette femme spectrale sur cette peau de bête. C'était quelque chose de totalement incongru pour la critique de l'époque. Alors c'est une œuvre en plus qui a un destin malheureux parce que l'année d'avant, Whistler avait tenté de la présenter à la Royal Academy de Londres et là encore, ça avait été un veto total. Autre artiste, c'est Johann Bartholdt Jomkind, qui est né en 1819, qui meurt en 1891. En fait, c'est un peintre d'origine hollandaise et on retrouve dans ses œuvres toute cette influence des grands maîtres hollandais. On pense à Rembrandt, on pense à Ruysdael notamment. Et Jomkind est très sensible aux effets de lumière, hein. Il donne une très large place à la nature et justement pour tous ces choix-là, il est considéré avec raison comme un des précurseurs de l'impressionnisme. Jomkind, c'est un peu un artiste maudit. Il a de multiples addictions, donc il a des grandes périodes de mal-être, de paranoïa, de délire en tout genre. Et le fait justement d'être constamment refusé et donc d'être constamment relégué au statut d'artiste de seconde zone, ça va vraiment être quelque chose qui va l'entamer. Et pourtant, c'est un des artistes qui va avoir un rôle très important parce que si vous vous intéressez plus précisément à l'impressionnisme, c'est vraiment un artiste qui préfigure toute cette nouvelle voie explorée par l'impressionnisme. Alors ce tableau-là, Ruine du château de Rosemont, est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay. Il est peint en 1861 et justement, c'est un tableau qui a été refusé par le salon officiel et qui est présenté à l'occasion du salon des refusés en 1863. Alors, autre artiste virulent, c'est Édouard Manet. Donc j'en ai parlé la semaine dernière, donc je vais vraiment m'attarder très brièvement sur lui. Édouard Manet, donc, il présente le déjeuner sur l'herbe lors de ce salon des refusés en 1863. Et c'est un scandale tonitruant. Bon, en fait, ce qu'on reproche à Manet ici, c'est d'avoir organisé une sorte de pique-nique entre des personnages contemporains, donc ces deux hommes qui discutent, et deux jeunes femmes dont l'une est entièrement dévêtue. Et c'est justement cette femme nue qui observe le public sanciller, assumant sa nudité, qui a choqué les contemporains. Donc là, on voit bien dans cette toile-là qu'il y a une espèce de gratuité. Et cette gratuité était jugée inconcevable à l'époque. Deux ans plus tard, Édouard Manet peint Olympia, qui est accepté au salon, assez paradoxalement, dans la mesure où, en 1963, lorsqu'il y a ce salon des refusés, ça avait été un tel pavé dans la mare que bon, l'Académie s'était dit, momentanément, freinons un peu, essayons d'être un peu plus nuancés, et pourquoi pas de laisser la chance à des artistes un peu de seconde zone. Et donc, cette année-là, en 1965, eh bien, l'Académie accepte qu'Olympia figure au salon. Bon, alors, évidemment, c'est un échec total. Alors là, justement, la foule, les critiques se pressent autour d'Olympia pour la critiquer. Il y a tout un tas de plaisanteries plus ou moins nettes qui circulent autour de cette femme qui crée le scandale. Parce que Olympia, eh bien, c'est là encore une femme nue qui observe le spectateur sensillé, qui assume cette nudité. Et qui, s'apparente, hein, je l'avais dit la semaine dernière, plus à une prostituée finalement qu'à des sujets plus nobles tels que les Vénus mythologiques. Donc ça avait été un choc épouvantable. Manet sera généralement évincé des salons, c'est vraiment une habitude. En 1877, il peint Nana. En fait, Nana, c'est l'héroïne du roman d'Émile Zola. Manet était très ami avec Émile Zola. Et l'œuvre est donc refusée au salon 1877. Et en fait, on reproche principalement le format. C'est un format quasiment grandeur nature, donc il a peint Nana grandeur nature. Et puis surtout, ce qui choque, c'est que l'activité de Nana est assez évidente. On voit donc cette femme à demi dévêtue, en train de se poudrer, regardant le spectateur avec une mine audacieuse. Et on voit surtout, confiné dans la partie droite, en partie découpée, un homme qui visiblement n'est pas son époux. Cette intrusion dans un épisode de charme a été vraiment critiquée à l'époque. Ce qui était intéressant aussi pour cette œuvre, et qui fera une magnifique transition pour tout à l'heure, c'est que dans cette œuvre-là, il y a une petite touche impressionniste. Manet a différentes périodes dans sa carrière, mais il y a vraiment certaines toiles qui se rapprochent du mouvement de l'impressionnisme, et notamment Manet, à la fin de sa carrière, va vraiment développer une touche très alerte, très vive, qui confine parfois à l'ébauche. Et à l'arrière-plan, quand on observe ce mur, c'est vraiment très sensible. Les formes sont à peine esquissées. Je l'ai dit tout à l'heure, Édouard Manet est très ami avec Émile Zola, et Émile Zola, ça va être vraiment le pourfendeur des critiques. Il va essayer à chaque fois de défendre Édouard Manet et de montrer le bien fondé de son œuvre. Et j'ai pris un texte d'Émile Zola, c'est un texte qu'il écrit à propos, encore une fois, d'une nouvelle éviction du salon. Et donc voici ce qu'il dit. « Mais qu'on rétablisse alors ce qu'on a appelé le salon des refusés. Je supplie tous mes confrères de se joindre à moi. Je voudrais grossir ma voix, avoir toute puissance pour obtenir la réouverture de ces salles où le public allait juger à son tour et les juges et les condamnés. Je me plains justement de ces étranges jugements qui condamnent à l'obscurité, pendant de longues années, des garçons sérieux, ayant le seul tort de ne pas penser comme leurs confrères. Il faut se dire que toutes les personnalités, de la Croix et les autres, nous ont été longtemps cachées par les décisions de certaines coteries. Je ne voudrais pas que cela se renouvelât, et j'écris justement ces articles pour exiger que les artistes qui seront à coup sûr les maîtres de demain ne soient pas les persécutés d'aujourd'hui. J'affirme carrément que le jury qui a fonctionné cette année a jugé d'après un parti pris. Tout un côté de l'art français, à notre époque, nous a été volontairement voilé. C'est dire que le jury n'a pas voulu des toiles fortes et vivantes, des études faites en pleine vie, en pleine réalité. Je sais bien que les rieurs ne vont pas être de mon côté. On aime beaucoup à rire en France, et je vous jure que je vais rire encore plus fort que les autres. Rira bien qui rira le dernier. Eh oui, je me constitue le défenseur de la réalité. J'avoue tranquillement que je vais admirer M. Manet, je déclare que je fais peu de cas de toute la poudre de riz de M. Cabanel et que je préfère les senteurs âpres et saines de la nature vraie. D'ailleurs, chacun de mes jugements viendra en son temps. Je me contente de constater ici, et personne n'osera me démentir, que le mouvement qu'on a désigné sous le nom de réalisme ne sera pas représenté au salon. Donc c'est un texte qui sonne vrai, Zola avait tellement raison, mais à cette époque, c'est une personne très isolée. Les critiques qui acceptent de s'intéresser au réalisme, et alors encore mieux, qui acceptent de cautionner ce mouvement-là, sont extrêmement rares. Et Zola fait vraiment figure d'outsider à cette époque-là. D'ailleurs, ce sont des choix qui vont lui être reprochés, parce qu'il était inconvenant de juger ces artistes réalistes comme étant de vrais artistes. Qu'est-ce que c'était que ces artistes qui n'arrivent même pas à dessiner très précisément un personnage, un visage, une nature? Pourquoi choisir d'ébaucher les formes? Ça, c'était vu non pas comme un choix esthétique, mais c'était vu comme un défaut, un manque de talent, un manque de sérieux, d'attention. Donc, toute cette volonté esthétique des artistes, tous ces partis pris, étaient vraiment conspués et dénigrés. On leur ôtait presque le statut d'artiste, hein, c'était vraiment très violent. Alors, justement, je reprends cette magnifique transition vers l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est vraiment un mouvement qui, lui aussi, va, à cette époque, être systématiquement évincé, censuré par les critiques. Parce que ça rompt de façon trop radicale avec la tradition. Le fait de ne simplement qu'ébaucher des formes, s'intéresser à la lumière, à la couleur, c'est vu comme radicalement révolutionnaire, mais dans le sens très péjoratif du terme. Alors l'impressionnisme, bon, c'est la peinture de la vie moderne, des visions inconstantes, des visions mouvantes, accentuées par l'intérêt que portent les impressionnistes à la lumière, à la couleur, et c'est ça qu'on reproche, c'est cette rupture avec le fini, avec le délimité. Il y a quelque chose d'instantané qu'on récuse, comme si la peinture restait à l'état d'ébauche. Donc plus rien à voir avec l'œuvre pensée, conçue dans l'atelier, et il y a une innovation technique qui va permettre justement ce départ de l'atelier, c'est le conditionnement de la couleur en tube. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est totalement révolutionnaire, parce que là, les artistes pouvaient quitter ce lieu clos de l'atelier et pouvaient aller peindre dans la nature, dans des gares, dans des rues, dans des forêts. Et ça va être véritablement un gain de liberté immense pour ces artistes impressionnistes. Bon, je vous montre la toile emblématique du mouvement, Impression Soleil Levant. C'est une toile qui est peinte en 1872. Je l'avais présentée brièvement la semaine dernière. En fait, ce n'est pas une toile terminée, c'est une ébauche. Et on avait proposé à Claude Monet de la présenter. Et Claude Monet, au départ, avait hésité en se disant « je ne peux pas décemment présenter une telle ébauche ». Et puis bon, finalement, il la présente et il prend soin de lui donner pour titre « Impression Soleil Levant » pour bien montrer que ce tableau n'est pas achevé. Sauf que la critique tombe dans le panneau et donc se met à tergiverser sur ce terme-là, « impression » à l'envi. Et en fait, c'est avec les expressions forgées par les critiques sur ce mot « impression » que va être forgé le terme « impressionnisme ». Donc pour ceux qui n'étaient pas là, le mot, on le doit à Louis Leroy, qui était un critique assez caustique du Charivari et qui donc invente un dialogue fictif avec un bon vieil artiste traditionnaliste. Et donc Louis Leroy et cet artiste déambulent dans l'exposition, observent cette toile et Louis Leroy dit « Oh, impression, j'en étais sûr, je suis tellement impressionné, il y a de l'impression là-dedans » et hop, le terme devient impressionnisme. Mais c'était vraiment... pas du tout la volonté de Claude Monet, hein. C'est vraiment un concours de circonstances. Alors ces expositions impressionnistes, en fait, elles se mettent en place, là encore, pour contrecarrer l'autorité établie. Comme ces artistes sont systématiquement écartés des sélections, ils se rassemblent et se décident à monter leur propre exposition, bon an mal an, et de présenter enfin leurs œuvres au public. Donc en fait, ces expositions impressionnistes, elles débutent en 1874, il ne faut pas forcément voir là-dedans un plan de route précis. Il n'y avait pas d'esthétique commune, hein, et de fait, les artistes impressionnistes vont prendre des directions très différentes. Il y a même des désaccords entre eux. Il y a certains artistes qui vont être présents à telle ou telle exposition impressionniste, et puis d'autres ne vont pas être présents parce qu'ils se sont fâchés momentanément. Donc c'est vraiment un mouvement au départ assez chaotique. Donc, je reviens là. Pardon, petit bug. Donc 1814, première exposition impressionniste. Donc elle a lieu dans l'atelier du photographe Nadar. Et donc elle est vue au mieux comme un gag. Au pire, elle est tout bonnement ignorée. Et cette initiative, donc, retenons-le, elle est motivée par ce refus répété de la part du salon. En fait, j'aurais pu rester là tout à l'heure. Bref. Donc voilà, je vous présente juste cette œuvre-là, Femme au jardin de Claude Monet. C'est un tableau qui est peint en 1866. Et c'est un tableau qui est présenté lors de cette exposition. Donc on retrouve cette volonté de hisser l'anecdotique au rang de peinture d'histoire. Hein. C'est un tableau avec un format assez important. On retrouve cet intérêt pour la couleur, pour la lumière. Le but, hein, c'est vraiment matérialiser les effets de la lumière sur la matière. Et les critiques qui visitent cette exposition sont quand même assez séduites par l'audace de ces impressionnistes. Et il y a certains critiques qui sont séduits. Alors Émile Zola, encore une fois, est très admiratif de l'œuvre de Monet. Il écrit « Le soleil tombé droit sous les jupes d'une blancheur éclatante, l'ombre tiède d'un arbre découpé sur les allées, sur les robes ensoleillées, une grande nappe grise, rien de plus étrange comme effet. Il faut aimer singulièrement son temps pour oser un pareil tour de force, des étoffes coupées en deux par l'ombre et le soleil. » Donc ça, c'est le pendant très positif de Zola, de la critique. Puis il y a un pendant aussi beaucoup plus négatif et beaucoup plus désagréable. Un des critiques de l'époque écrit « Trop de jeunes gens ne pensent qu'à poursuivre dans cette abominable direction. Il est grand temps de les protéger et de sauver l'art. » Alors, quelques mots sur la formation de Claude Monet. C'est un artiste qui se forme dans l'atelier de Charles Blair, donc qui est un artiste assez traditionnaliste lui aussi. Et au départ, Claude Monet fait des œuvres qui sont assez classiques. Il est notamment très influencé par l'école de Barbizon, donc tout comme Millet. Et puis, petit à petit, il va s'intéresser à la lumière, à la couleur, et il va y avoir une véritable évolution dans son art. Là, je vous présente le Déjeuner sur l'herbe. C'est un tableau peint en 1865, qui est conservé au musée d'Orsay, et en fait, c'est un clin d'œil à l'œuvre de Manet. C'est un clin d'œil, une sorte d'hommage respectueux à Manet, et en fait, c'est un tableau qui a une histoire rocambolesque, parce que Monet, il a une vie assez chaotique. Parfois, il va avoir un certain succès, d'autres fois, il va avoir des échecs retentissants. Et en fait, c'est un homme qui est constamment criblé de dettes. Et là, en l'occurrence, cette œuvre-là, elle avait été donnée en gage à son propriétaire. Donc le propriétaire récupère l'œuvre, la met dans la cave et l'oublie. Et en fait, plusieurs années après, quand Monet a pu enfin récupérer cette œuvre, elle était en partie moisie. Et au départ, c'était un format monumental, et malheureusement, il a dû couper l'œuvre parce qu'il y avait certaines parties qui étaient inutilisables, parce qu'elles avaient littéralement pourri. Autre œuvre, Camille, ou Femme à la robe verte. Camille, en fait, ça a été la première épouse de Claude Monet. C'est un tableau qui est conservé à Brême, qui a été peint en 1866. Et c'est une œuvre qui arrive à être acceptée au salon. Donc voilà, cette œuvre est présentée au salon de 1866. Elle est assez banale, entre guillemets. Enfin bref, il n'y a pas d'éléments détonnants. Et elle est assez bien appréciée par la critique. Alors Zola, là encore, découvre Monet à cette occasion. Et Zola est séduit. Donc Zola avait été un grand partisan du réalisme. On l'a vu tout à l'heure quand il parlait de Courbet notamment, de Manet aussi. Et donc là, Zola entre de plein pied dans l'impressionnisme. Et voici ce qu'il écrit. J'avoue que la toile qui m'a le plus longtemps arrêtée et la Camille de Monsieur Monet. C'est là une peinture énergique et vivante. Je venais de parcourir ces salles si froides et si vides, là de ne rencontrer aucun talent nouveau, lorsque j'ai aperçu cette jeune femme traînant sa longue robe et s'enfonçant dans le mur, comme s'il y avait eu un trou. Vous ne sauriez croire combien il est bon d'admirer un peu lorsqu'on est fatigué de rire et de hausser les épaules. Je ne connais pas ce Monsieur Monet, je crois même que jamais auparavant je n'avais regardé attentivement une de ses toiles. Il me semble cependant que je suis un de ses vieux amis, et cela parce que son tableau me conte toute une histoire d'énergie et de vérité. Et oui, voilà un tempérament, voilà un homme dans la foule de ses eunuques. Regardez les toiles voisines et voyez quelle piteuse mine elles font à côté de cette fenêtre ouverte sur la nature. Ici, il y a plus qu'un réaliste. Il y a un interprète, délicat, fort, qui a su rendre chaque détail sans tomber dans la sécheresse. Voyez la robe, elle est souple, solide, elle traîne mollement, elle vit. Elle dit tout haut qui est cette femme. Ce n'est pas là une robe de poupée, un de ces chiffons de mousseline dont on habille les rêves. Alors jusqu'en 1870, je l'ai dit, Monet est criblé de dettes. Bientôt, c'est la guerre franco-prussienne, et donc il décide de quitter la France. Il se rend en Angleterre, et là, il fait une rencontre qui va déterminer sa carrière. Il fait la rencontre d'un grand galeriste de l'époque, Paul Durand-Ruel. Et Paul Durand-Ruel, c'est un galeriste assez détonnant qui va donner la chance, leur chance, à ces artistes impressionnistes. Il va miser sur eux. C'était assez risqué, c'était assez audacieux, mais bon, finalement, ça lui a bien servi. Et donc, Durand-Ruel va financer les œuvres de Monet et va s'ouvrir une période beaucoup plus prolifique pour cet artiste. Ça, c'est un tableau qui est peint en 1873, à son retour en France. C'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, les Coquelicots. Et cette œuvre, elle est emblématique des recherches de Monet parce que Monet cherche à rendre l'impression d'une journée d'été. Donc on voit au premier plan son fils, Jean, qui est noyé dans ce champ de coquelicots. D'ailleurs, on discerne à peine sa tête qui émerge. Et cette vision assez onirique, elle est accentuée par la disproportion, par l'immensité de ces coquelicots. Et cette place démesurée accordée aux coquelicots trahit bien la volonté de Monet à savoir retranscrire l'impression visuelle. Et là, en l'occurrence, cette impression visuelle, elle confine à l'abstraction. Quand on observe morceau par morceau cette toile, et notamment ce champ de coquelicots, et bien de prime abord, on ne se rend pas compte forcément que c'est un champ de fleurs. Et pourtant, il y a quelque chose de très palpitant, de très vivant qui émane de cette toile. Et là, du coup, Monet, il a réussi son pari, c'est-à-dire qu'il a réussi à matérialiser ces effets changeants de la lumière sur les choses. Autre toile, la gare Saint-Lazare. Bon, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont consacrées à la vie parisienne et notamment à cette modernité parisienne. Et là, c'est la gare. C'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, qui a été peint en 1877. Et là, finalement, c'est pas tant la gare qui est le sujet. C'est toute cette débauche de fumée, de couleurs un peu modulé par justement cette pollution du système ferroviaire qui intéresse Monet. Monet va beaucoup s'intéresser à ça, à tous ces fluides qui se dégagent de la vie moderne parisienne. Et ce sont vraiment ces effets lumineux, ces effets colorés qui l'intéressent. Ça, c'est une œuvre qu'il présente lors de la troisième exposition impressionniste en 1877. Donc Monet va connaître vraiment la gloire à la fin de sa vie. Et l'autre grande période très féconde, c'est Giverny. Giverny, c'est une période heureuse pour Monet. Il acquiert une maison et il est fasciné par cette maison. Et il est fasciné notamment par le jardin qui l'entoure. Et c'est une constante source d'inspiration qui va l'inciter à approfondir ses recherches sur la lumière et sur la couleur. Et en fait, Monet va s'attacher à restituer l'éphémère dans des toiles qui confinent à l'abstraction, là encore. Bon, la série des nymphéas, elle est exposée un peu partout, mais il y a notamment un grand nombre d'œuvres qui sont conservées au musée de l'Orangerie à Paris. Et d'un point de vue muséographique, la présentation, elle est géniale. Elle est vraiment géniale parce que, au sens propre du terme, en fait, les œuvres sont exposées tout le long de murs de salles elliptiques. Et en fait, on a vraiment l'impression d'être engouffré dans l'œuvre, d'être noyé dans l'œuvre. Les nymphéas, ce sont donc des morceaux du jardin de Monet, donc ils s'attachent à rendre les palpitations de l'eau, à rendre les palpitations de la végétation à différentes heures du jour. Et cette présentation au musée de l'Orangerie, elle est surréaliste, parce qu'on a vraiment l'impression d'être happé par la scène. Et là, ben voilà, plus de personnages, plus de sujets anecdotiques, mythologiques, j'en passe et des meilleurs. Là, c'est vraiment la nature qui est le centre de son œuvre. Et ce qui est intéressant aussi avec ce type d'œuvre-là, c'est qu'on a un focus sur la nature. Il n'y a pas de premier plan, de second plan, d'arrière-plan. Et ça augmente aussi, mine de rien, cette notion de vertige, cette impression d'être noyé dans l'œuvre. Et à la fin de sa vie, ces œuvres-là vont avoir un poids très important pour toutes les recherches menées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Là, on est vraiment proche, de l'abstraction. On sera vraiment proche de recherches menées par des Kandinsky, par exemple, au XXe siècle. Cet intérêt pour la nature et cette façon dont on va transfigurer cette nature, dont on va donner une vision très personnelle, très subjective et du coup très bouleversante de la nature. Alors, autre artiste impressionniste, et pas des moindres, Pierre-Auguste Renoir. Il naît en 1841, il meurt en 1919. Donc lui aussi, au départ, il a une formation très classique à l'école des Beaux-Arts. Et en fait, la rencontre déterminante, ça va être celle de Claude Monet. Au contact de Claude Monet, Renoir va s'intéresser donc à tous ces jeux de lumière et de couleurs. Et en fait, donc, il va avoir une période impressionniste. La balançoire, c'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, qui est peint en 1876. Donc là encore, on est à la recherche de l'instantané. Là, il semble surprendre une conversation entre ces quatre personnages. Et en fait, si vous êtes attentif, au second plan, il y a aussi un groupe de personnages. Sauf que là, ils sont à peine ébauchés. Ils sont littéralement noyés dans la végétation. Et regardez la veste de l'homme, regardez la robe de cette femme au premier plan. Il s'intéresse vraiment au jeu de la lumière sur les formes. Finalement, le côté réaliste, le côté mimétique, ça ne l'intéresse pas du tout, Renoir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de happer les changements de la lumière sur la matière. Bon, évidemment, c'est un tableau qui va être extrêmement critiqué, tout comme le bal du Moulin de la Galette, qui est peint la même année. Et en fait, on reproche justement ces taches de couleur sur les vêtements. Ça semble totalement inconcevable à la critique de l'époque. Autre toile, Jeune fille au piano, c'est également un tableau qui est conservé au musée d'Orsay. Et en fait, si j'ai choisi de vous le montrer, c'est parce que c'est l'un des premiers tableaux à avoir sa place dans un musée du vivant de l'artiste. Et à cette époque, Renoir, il a plus de 50 ans. Donc ça vous montre bien que reconnaissance, elle est tardive. Et parfois, certains de ces artistes ne l'ont pas connu de leur vivant. Donc imaginez d'un point de vue, d'un point de vue financier, d'un point de vue alimentaire tout simplement, à quel point ça pouvait être difficile. Et en fait, ces difficultés financières, ces difficultés économiques, eh bien, elles étaient littéralement le fait de la critique, parce que c'était vraiment elle qui faisait ou défaisait une carrière. Alors oui, j'ai choisi de vous montrer cette œuvre-là, parce qu'en fait, Renoir, bon, il y a une période impressionniste, et puis à la fin de sa vie, il s'oriente vers quelque chose de plus classique. Et en fait, il va beaucoup peindre des nus. Et là, il y a encore deux, trois choses qui nous rappellent l'impressionnisme, mais il va faire des choses aussi beaucoup plus académiques. Alors, si certains d'entre vous ont vu justement l'exposition Renoir au Grand Palais l'année dernière à Paris, justement, c'était toute cette période-là, post-impressionniste, qui était explorée. Et d'ailleurs, il me semble, mais je ne suis pas certaine, que le tableau était exposé au Grand Palais. Alors, autre artiste impressionniste, c'est Berthe Morisot. Si je vous montre ce tableau d'Edouard Manet, c'est parce que Berthe Morisot est présentée au premier plan. C'est cette femme assise qui a l'air un peu rêveuse. Bon, pour la petite histoire, le balcon d'Edouard Manet a aussi été critiqué par le jury du salon, dans la mesure où il y avait cette omniprésence de ton vert qui a été jugée de façon très négative. On ne comprenait pas pourquoi il avait pris des couleurs aussi stridentes. Et on lui avait reproché également à Manet d'avoir parqué les personnages derrière le balcon. Donc c'était assez curieux. En fait, il y a un côté très photographique dans cette œuvre-là. Les impressionnistes, ils découvrent aussi la photographie et ils vont être très influencés par les cadrages des photographes. Et là, cette œuvre-là, elle est très emblématique de l'influence de la photographie. Bref, donc je vous présente Berthe Morisot, qui est née en 1841, qui meurt en 1895. Et Berthe Morisot, c'est une artiste qui va beaucoup s'intéresser à la maternité. C'est une artiste tempétueuse, très consciente du côté éphémère de la vie. Elle avait vraiment des tourments intérieurs qui ont beaucoup influencé sur son art. Et ce n'est pas un hasard aussi si elle s'intéresse à la maternité. Il y a cette volonté de happer l'instant présent parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le berceau, c'est une de ses œuvres les plus célèbres. Bon, c'est un tableau, là encore, qui est conservé au musée d'Orsay. Il est peint en 1872. En fait, elle peint sa sœur ici et sa nièce. Et c'est une œuvre qui est présentée à cette première exposition impressionniste en 1874. Et à cette époque, c'est la première femme à exposer parmi ces impressionnistes. Femme à sa toilette, alors c'est un tableau qui est conservé à Chicago, qui a été peint entre 1875 et 1880. Et c'est un tableau qui est assez intéressant parce que c'est un camaïeu de blanc, de gris, de bleu. Et on voit que tout est fondu, aussi bien le mur, la robe de la femme, le miroir dans lequel elle se regarde. Donc on retrouve cette touche très, très alerte, très mouvementée, propre aux impressionnistes. Alors, autre artiste féminine, Marie Cassatt. C'est une artiste d'origine américaine. Elle naît en 1844, elle meurt en 1926. Et en fait, elle se joint aux impressionnistes à la fin des années 1870. Elle est très connue, elle aussi, pour ses maternités. Bon, alors malheureusement, je n'en ai pas trouvé, donc je vous montre « Jeune fille au jardin ». C'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay également, qui est peint entre 1880 et 1882. Alors, ce côté impressionniste, on le retrouve notamment au niveau de l'arrière-plan, hein, au niveau du paysage. Par contre, Marie Cassatt, à la différence peut-être de Berthe Morisot, elle ne renie pas un certain classicisme. Et là, on le voit très bien au niveau du visage, au niveau des mains, elle s'attarde sur les détails. Hein. Pas question d'ébaucher ou d'esquisser les morceaux nobles de la peinture. Donc ces expositions impressionnistes, elles se déroulent entre les années 1870 et les années 1880. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des dissensions entre les artistes. Et des dissensions qui vont provoquer la formation d'un autre groupe en 1884, c'est le groupe des artistes indépendants. Alors là aussi c'est en réaction à l'omnipotence du jury officiel, mais c'est aussi en réaction à ces dissidences dans le mouvement impressionniste. Alors le groupe met en place la Société des artistes indépendants, hein, c'est une société qui existe toujours, et tient sa première exposition sur les Champs-Élysées, dans le pavillon de la ville de Paris, hein, au bon soin de la ville de Paris, qui est bien trop contente de contrecarrer l'État. Et en fait, les néo-impressionnistes qui font partie de ce groupe des artistes indépendants, donc c'est des artistes qui ont eu un parcours impressionniste et puis qui par la suite s'en dégagent, les néo-impressionnistes vont pouvoir divulguer faire connaître, promouvoir leurs recherches au cours de ces expositions. Et donc là encore, c'est une façon de s'affirmer et surtout de rendre légitime leur art, puisqu'ils sont assez contestés, même par les impressionnistes. Hein. Monet les traite de barbouilleurs, les néo-impressionnistes. Donc c'est le comble, parce que Monet, il a souffert justement qu'on le traite lui aussi de barbouilleur quelques années avant, et finalement, ça n'a pas eu forcément un impact sur son humilité, puisqu'il va s'amuser à les dénigrer, ces néo-impressionnistes. Alors, le néo-impressionniste par excellence, c'est Georges Seurat. J'en avais parlé la semaine dernière. Alors, en fait, je vais vous présenter deux œuvres. La première, c'est une baignade, Anière. C'est un tableau qui est conservé à Londres, qui est peint entre 1883 et 1884. Et donc là, c'est le côté impressionniste de Georges Seurat. Et puis, quelques années après, il peint un dimanche après-midi à la Grande Jatte, donc entre 1884 et 1886. Et là, on voit qu'il s'en dégage de cet impressionnisme. En fait, Seurat, c'est un artiste qui est très influencé par la recherche scientifique de l'époque, et notamment toutes les recherches sur l'optique et sur la décomposition des couleurs par l'œil. Et ça va l'influencer, et en fait, il va mettre en place son propre courant à cheval, donc à la fois entre art et à la fois entre sciences. Et ce qui est intéressant chez Seurat, c'est que quand on s'approche de ses toiles, on a une succession de petits points, voisines des couleurs qui sont parfois pas du tout harmonieuses entre elles, et quand on s'éloigne, la magie opère et le miracle se fait, toutes ces couleurs s'assemblent, donc c'est juste un procédé d'optique, et permettent de visualiser avec plus de sensibilité les reliefs, les effets de lumière sur la forme. Alors cette toile là elle est présentée lors de la dernière exposition impressionniste en 1886, donc, je l'ai dit, hein, elle est emblématique de ce nouveau mouvement et elle est très critiquée. En fait, on ne comprend pas cet intérêt de peindre par petits points. On trouve ça très artificiel, on trouve ça très laborieux. Finalement, c'est comme si Seurat rompait avec la spontanéité de l'impressionnisme. Et c'est clair que de telles œuvres étaient réalisées pendant un laps de temps très long, parce que c'était un travail de titan. Et donc ça, ce côté très, très laborieux, ce travail de bénédictin, c'est vraiment quelque chose qui va être un peu moqué par les impressionnistes. On trouve ça, on trouve ça très artificiel. Donc Georges Seurat, il fonde ce mouvement qu'est le néo-impressionnisme et il va profondément influencer les artistes autour de lui. Et il influence notamment un artiste qui s'appelle Paul Signac. Paul Signac, il est né en 1863, il meurt en 1935. Paul Signac, c'est un artiste, mais c'est aussi et surtout un théoricien. Il écrit notamment d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, et en fait, c'est lui qui fonde l'existence théorique du néo-impressionnisme. Donc c'est vraiment un homme très important. Et il s'agit pour Signac de défendre ce mouvement en lui donnant une légitimité intellectuelle et en lui donnant aussi toute une ascendance. Voilà, le néo-impressionnisme, ce n'est pas un mouvement qui apparaît ex nihilo au hasard de recherche. C'est un mouvement qui s'ancre dans toute une tradition picturale et qui cherche à la dépasser pour donner quelque chose de plus novateur, de plus inédit. Alors, Signac, il va dépasser l'action de Seurat, puisque Seurat peignait par tout petits points, et Signac, lui, va peindre par larges touches. Et ça va lui donner un côté beaucoup plus libre, finalement. Donc là, c'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, « Femme à l'ombrelle ». C'est un tableau qui est peint en 1893. Donc c'est encore un tableau qui est tributaire des recherches de Seurat. Et là, voilà, là, c'est son propre style à lui, c'est Saint-Tropez, l'orage. C'est un tableau qui est peint en 1895 à Saint-Tropez, donc il y a juste 2 ans hein, entre ces deux œuvres. Et là, on retrouve cette large touche dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a quelque chose du coup de beaucoup plus libre et de beaucoup plus mouvant. Et c'est très sensible au niveau du ciel notamment. On a un camaïeu de bleu et on a quelque chose de très hétérogène et de très libre dans ce ciel. Autre artiste. Ah ben non, Paul Signac, toujours. Alors, Saint-Tropez, la Calanque, c'est un tableau qui est conservé à Bruxelles. Donc là, c'est un tableau qui est peint au XXe siècle, en 1906. En fait, je sais pourquoi je vous ai présenté ce tableau, je ne me rappelais plus, mais dans cette œuvre-là, Signac va introduire des couleurs un peu pétaradantes, et notamment au niveau des bois, là, sur ces calanques, sur ces falaises. Et en fait, Signac, ça va être un des grands précurseurs du fauvisme. Alors ça, on le verra dans les semaines qui viennent. Mais par le choix d'utiliser des couleurs qui ne sont pas forcément révélatrices de la réalité, ça va être une nouvelle liberté, un nouveau pas franchi pour cette libération de la couleur dont vont s'emparer les artistes fauves. Et donc, autre artiste du néo-impressionnisme, c'est Cross, Henri Edmond Cross. Ou Cros, je ne sais pas exactement comment on le prononce, donc là je ne suis pas certaine de moi. C'est un peintre qui naît en 1856, il meurt en 1910, et en fait c'est un peintre qui va être très influencé par Paul Signac. Il s'installe en Méditerranée, donc là où travaille Signac, et ça va être une véritable révolution picturale pour lui, et donc il va adopter cette touche large, et il va essayer de retranscrire à son tour la nature changeante. Donc là, c'est une de ses œuvres les plus célèbres, Un après-midi à Pardigon. C'est un tableau qui est conservé également au musée d'Orsay. Il est peint en 1907. Et l'autre toile que je voulais vous montrer, c'est Antibes. Et là aussi, eh ben, on voit la dette des fauves à l'égard de ces néo-impressionnistes. Et on voit notamment Antibes qui est nimbée par le soleil, qui a des couleurs très rougeoyantes, très gaies, qui contraste hein, avec la mer dans des tons de bleu, de vert, de violet. Et là aussi, ça participe à cette libération de la couleur. Juste d'un point de vue stylistique, je disais tout à l'heure que Signac peignait par large touche. Là, c'est carrément une touche qui s'apparente à de la mosaïque. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas forcément très perceptible, quoique au niveau de la mer, pourquoi pas. En fait, il intercale les touches, mais ça ne le dérange pas du tout de laisser des morceaux de blanc de la toile. Ça peut paraître peint à la va-vite. En fait, pas du tout. Hein. C'est un choix propre à lui. Alors, on peut se poser donc la question de la réception de toutes ces œuvres-là inédites par la critique. C'est vrai qu'au XIXe siècle, et notamment dans la deuxième partie du XIXe siècle, les contre-expositions vont se multiplier. C'est une façon pour les artistes de se libérer de cette tutelle de l'Académie, et puis c'est surtout une façon de se faire connaître et de promouvoir leurs œuvres. Et finalement, la critique, bon an, mal an, va être obligée de suivre. Alors, je ne dis pas que la critique va donner des jugements positifs, pas du tout, mais autant au départ, elle était assez indifférente, elle boycottait littéralement ses contre-expositions, autant par la suite, elle va essayer quand même de faire l'effort de se rendre à ces expositions et de faire des comptes rendus. Alors, c'est des comptes rendus hein, qui, de façon générale, sont très rudes et parfois sont très malveillants. Néanmoins, on a une trace écrite. L'impressionnisme, avec Monet notamment, et le néo-impressionnisme, et je terminerai là, ces deux mouvements préparent la voie à l'art du XXe siècle et préparent la voie notamment à l'abstraction. En libérant la couleur, en lui donnant une place prépondérante, en s'affranchissant finalement du sujet, Tous ces mouvements vont contribuer au rejet de la figuration et vont préfigurer toutes les avant-gardes du XXe siècle. On verra notamment la semaine prochaine une avant-garde très importante, c'est le fauvisme, et on verra à quel point ces artistes, au départ, ont été très tributaires de cette leçon, de cette grande leçon de liberté des impressionnistes et des néo-impressionnistes. Voilà.